nous un jour d'allégresse qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur.
En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance.
L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la préserver de toutes ses forces et de toute son âme.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour à tous. En 1960, un puissant vent de liberté souffle sur l'Afrique, porté par le peuple et relayé sur les ondes, propulsant 17 pays du continent vers leur indépendance. Souvent, les dates anniversaires sont l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Et c'est ce que nous allons modestement essayer de faire avec cette série en trois volets, Indépendance, les jours d'après. Un récit épique, radiophonique et musical que va nous conter Vladimir Cagnolari entre histoire populaire et politique, voix du peuple et des dirigeants, avec au centre, pour ce premier épisode en République démocratique du Congo, un vieux poste de radio où l'on pouvait bien sûr entendre ceci.
C'est une musique qui ne vieillit jamais. Elle a été exécutée à l'indépendance du Congo. Mais les jeunes l'adorent, les vieux l'adorent. Et c'est une musique qui, d'abord de par son contenu, c'est une musique qui chante l'unité nationale, qui montre que tous les partis politiques doivent être unis. C'est le problème permanent de l'Afrique, c'est trouver cette unité entre politiciens. On se chamaille tout le temps, mais tous les politiciens ont un seul mot, il faut que nous puissions nous réconcilier. On l'a vu en Afrique du Sud, on le voit partout, et on peut se tirer dessus, mais à la fin, on se réconcilie. C'est un peu cette chanson.
Ah, cette chanson, elle est peut-être fatiguée à force d'avoir été jouée, mais elle reste quand même l'un des plus beaux témoignages des espoirs de l'époque, quand tout était ouvert, quand tout était permis. Et elle chantait déjà l'unité de ce pays continent qui, ce 30 juin 2020, fêtera ses 60 ans d'indépendance. 60 ans, c'est pas petit. Et pourtant, je vous propose qu'on voyage ensemble dans cette histoire, cette longue histoire, en un petit bout d'heure. Le temps juste de dessiner une trajectoire, celle du Congo belge devenu République du Congo, puis Zaïre et enfin République démocratique du Congo. Cette histoire donc qui nous occupe aujourd'hui, elle débute bien avant ma naissance. Alors pour commencer ce voyage au Congo, on va se replonger dans les archives. Première séquence, Léopoldville, Palais de la Nation, le 30 juin 1960.
Allô Paris, radio diffusion d'outre-mer, ici Jacques Alexandre qui vous parle de Léopoldville. Ce matin, 30 juin à 11h, le continent africain a vu naître un nouveau pays indépendant. Désormais, il faudra rayer des cartes et des atlas le nom de Congo belge et le remplacer par celui de République du Congo, dénomination choisie par le nouvel État souverain. À 11h, une foule immense de plusieurs dizaines de milliers de Congolais se massait devant le palais de la nation à l'intérieur duquel plus d'un millier de témoins privilégiés assistaient à l'instant solennel. La Majesté, le roi Baudouin, prend la parole pour dresser le bilan de 80 ans de tutelle belge et prodiguer des conseils de sagesse au nouvel État.
Peuple congolais, le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale.
Pendant que le roi Baudouin parle, il faut imaginer le jeune Premier ministre Patrice Lumumba en train de bouillonner intérieurement pendant que le souverain belge fait l'éloge du travail accompli par son aïeul Léopold II qui avait fait du Congo sa propriété privée. Bon, ça, Baudouin ne l'a pas rappelé. Mais Lumumba attend son heure et elle est sur le point d'arriver. Comme lui, voilà plusieurs années que les élites congolaises s'impatientent, ceux qu'on appelle les évolués. Tôt ou tard, l'indépendance viendra, se répète-t-on, en voyant le Soudan voisin, mais aussi le Ghana et puis la Guinée voler de leurs propres ailes. Le gouvernement colonial belge, lui, semble aveugle. Il se réveille un matin de janvier 1959. Un meeting de la BAKO, le parti de Joseph Kasavubu, a été interdit. L'affaire dégénère en émeute violemment réprimée. Et les choses alors se précipitent. Les Belges comprennent qu'ils doivent lâcher du lest. Et après avoir mis en prison Lumumba, le leader du MNC, le mouvement national congolais, eh bien ils sont bien obligés de le libérer pour qu'il participe aux négociations de la table ronde à Bruxelles.
Table ronde, table ronde, table ronde d'indépendance. Table ronde,
l'African Jazz, l'orchestre de Joseph Kabasele chante donc à l'ouverture de la table ronde à l'hôtel Plaza de Bruxelles. C'est dans la capitale belge qu'un musicien né au Cameroun les rencontre. Il s'appelle Manu Dibango.
Quand Lumumba est venu au moment de la table ronde, il a amené dans ses valises Kabasele. Et Kabasele a fait table ronde et indépendant cha-cha. Blam. Coup d'essai, coup de maître, ça a été la chanson des indépendants. C'est indépendant cha-cha, quoi. Tous les soirs, quand ils avaient fini de discuter politique, les Tchombé, les Lumumba, les Kalonji, tous ces gens-là, ils venaient en boîte. Je n'ai jamais bavardé avec Lumumba. Par contre, j'ai bavardé avec Bomboko, le ministre des Affaires étrangères. Bon. Pourquoi j'ai bavardé avec Bomboko? C'est que c'était l'un des quatre étudiants qu'on avait donné l'autorisation d'aller à Louvain. Tu te rends compte qu'en 60, le Congo n'avait pas d'intellectuels. Les études des Congolais s'arrêtaient au certificat d'études. Le Belge ne voulait pas qu'ils aillent au-dessus. Les seuls Congolais que tu voyais à Bruxelles, c'était des boys, parce que les familles belges amenaient des boys pour montrer aux gens qu'ils ont réussi. Et il y avait quatre étudiants, donc. Et Bomboko était l'un des quatre étudiants. Et comme il n'avait pas d'argent, moi, je lui payais du Coca-Cola. Tu sais comment les grands frères et tout ça. Et un jour, j'ouvre la télévision, je vois Bomboko avec Baudouin. On me dit que c'est un ministre. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est là que je me suis réveillé et je connaissais rien.
Oui, auquel je paie des coca.
Comment? C'est lui qui est ministre des Affaires étrangères, la grosse voiture avec le président, le roi Baudouin. C'est là que je me suis réveillé à la politique parce que bon, tous ces gars-là, je les voyais. Mobutu, il était encore journaliste à l'époque.
Les notes ministre des Affaires étrangères.
Et au Congo, c'est comme ça, on aime chanter tout. L'amour, bien sûr, la bière, mais aussi les politiciens. Mobutu, qui était aussi à Bruxelles au moment de la table ronde, saura s'en souvenir. Mais n'anticipons pas. Retour au 30 juin. Après le discours du roi Baudouin, après celui du président Kazavubu, Lumumba, et ce n'était pas prévu, monte à la tribune.
Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'une de ces noms, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise.
Après le 30 juin et ce fameux discours, l'histoire du pays s'accélère. Quatre jours après l'indépendance, les soldats de la force publique, l'armée congolaise, se mutinent. La situation devient vite hors de contrôle. Les civils belges fuient. Bruxelles envoie l'armée qui s'en prend aux soldats congolais. Et au même moment, le Katanga, la plus riche province du pays, fait sécession, bientôt rejointe par une autre province, le Kasaï. Alors vers qui se tourner? L'ONU? Les Américains? Les Russes? Les épreuves sont telles que le président Kazavubu, en désaccord avec son premier ministre, décide de le révoquer. Lumumba s'y refuse, après tout, c'est lui qui a la majorité à l'Assemblée. Alors qui dirige le pays? Comme le disait l'écrivain Amadou Kourouma, c'est un bordel de bordel, un bordel au carré. Un nouveau personnage sort de l'ombre, le colonel Mobutu. Cet ancien journaliste, devenu l'ami et le secrétaire particulier de Lumumba, vient d'être bombardé chef d'état-major de l'armée congolaise. Et il est bien vu par la CIA, qui ne supporte plus, comme les Belges du reste, Lumumba. Tout cela se passe dans les 9 semaines qui suivent l'indépendance. Écho de ce chaos.
De nombreuses nouvelles alarmantes nous parviennent des différentes provinces de l'intérieur depuis 24 heures. C'est à Luluabourg, chef-lieu de la province du Kasaï, au centre du Congo, que la situation semble être ce matin la plus dramatique. Une mutinerie de la force publique ayant éclaté samedi soir, les événements se sont rapidement précipités hier. Les parachutistes belges envoyés en renfort furent obligés de reprendre possession du terrain d'aviation tombé entre les mains des mutins qui l'avaient rendu inutilisable.
Les Belges nous accordent l'indépendance. Croyaient que cette indépendance ne pouvait signifier autre chose que l'installation d'un gouvernement fantoche qu'ils pouvaient manœuvrer à leur gré. Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé.
Monsieur Lumumba Patrice est révoqué de ses fonctions de Premier ministre et de toutes ses autres fonctions ministérielles.
Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise qui vous parle de Léopoldville. Pour sortir le pays de l'impasse, l'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État, les deux gouvernements rivaux en présence ainsi que les deux chambres législatives jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'état militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique pour sauver le pays du chaos.
Monsieur Patrice Lumumba qui descend, il est vêtu d'une chemisette, il a toujours sa petite barbe, une chemisette assez sale, un pantalon bleu, il a les mains attachées derrière le dos avec une corde, il a l'air assez triste d'ailleurs. C'est la première fois, puis-je dire, que l'on voit M. Lumumba toujours si sûr de lui, toujours si triomphant, être aussi abattu par les événements et par cette arrestation.
Au nom de l'armée nationale, je peux vous garantir que pour moi, M. Lumumba est un homme fini.
Patrice Akena Mawa, pas nationaliste Balatim Pili, bon aliwaya martyr et mérié, go Mawa. Oh, 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 Mawa vraiment, aliwaya Patrice.
Kisangani, troisième ville du pays, à l'époque où elle s'appelait encore Stanleyville. C'est là que Lumumba avait lancé son parti, le MNC. Après son assassinat, les sécessions katangaises et kasaïennes vont finir par être maîtrisées. Mais au nord et à l'est, d'autres rébellions couvent. Celles des Pierre Moulelé, des Gaston Soumialo, des Laurent Désiré Kabila. Kisangani, près d'un demi-siècle plus tard, m'y voici donc. Je marche vers la maison d'un doyen qui, dans son quartier, est une célébrité, Papa Rovensky. Chanteur de charme, séducteur impénitent et fabricant de cercueils qu'il recouvre de toiles cirées à fleurs pour leur donner de la couleur. Il se souvient de sa jeunesse et de la rébellion mouléliste qui, après l'indépendance, a agité la région.
Maman Élisée ! Maman Élisée ! Fungula, capsulateur !
Ici chez nous, nous avons une épidémie de vers. Les affaires cassent tout. C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir prendre un vidage.
Hein? En vidage, c'est-à-dire à la bouteille, quoi.
À la bouteille, oui.
C'est pas compliqué.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Papa, Rovensky.
Oui.
Ce nom, Rovensky, vous vient d'où?
Voilà.
Bon, c'est moi, un nom qui fait pas très
merci
congolais.
Beaucoup. Je suis un seul Rovensky, le seul Rovensky, c'est moi. J'ai pris ça comme ça pour faire jouer, danser, de guitare. Hein? J'étais un ambianceur aussi. Donc, quand le pays a accepté à son indépendance, j'ai été nommé comme secrétaire communal, c'est-à-dire la deuxième personne après le bourgmestre. Congo, j'ai voyagé et j'ai fait les tours du monde. Et je chantais souvent des mélodies qui rejoignaient l'exemple de la ronde de mon pays. J'avais la nostalgie. Vive Congo! Bon, le 4 août 1964, les rebelles moulélistes ont envahi la ville de Kisangani.
Comment ça s'est passé, la rébellion mouléliste, ici?
La rébellion mouléliste, il y avait un groupe de gens qui venaient de Kikwit. Hein? Ils sont venus au nom de Lumumba. Soi-disant, ils étaient des lumumbistes, alors que ce n'était pas ça. Ils avaient seulement l'idée d'exterminer toute personne éveillée.
Pourquoi?
Pourquoi? Ils étaient jaloux. Ils ont dit que ce sont ces gens-là qui ont vendu les pays aux Belges. Hein, aux Européens, soi-disant Bateka Congo.
Bateka Congo, ça veut dire...
Ceux qui ont vendu les pays, c'est ça.
Donc, vous, par exemple,
oui,
on vous a menacé.
J'étais le secrétaire communal, j'étais déjà hué. Hein. Ils avaient des conduites hostiles envers moi et envers tout le monde. Toute personne qui était éveillée devait passer par les armes. On les extermine, ça, pardon. Ils ont mettait d'autres dans des sacs, on les jetait dans des fleuves. Ils tuaient aussi des lances, des toutes sortes d'armes.
Et comment vous avez échappé à ça, vous?
C'est la population qui a plaidé ma cause. Lorsque j'étais présenté, donc tout le monde a dit que non, pas celui-là, il est bon, pas celui-là. Alors comme l'air sentence a été populaire, me voici aujourd'hui. Mais de toutes les façons, après avoir été libéré, je fuis chez moi, dans mon village de natal, dans la pleine forêt là-bas. Hein? Et là aussi, malheureusement... Alors c'est là où ils devaient nous faire travailler péniblement, pendant des ans, des pénibles travaux. Les souvenirs lointains de mon enfance, tous les amis et tous les vieux compères sont transformés en histoire romane. Les amoureux autant de mon pays d'antan. Congo.
Papa Rovensky s'est éteint en 2018 à l'âge de 82 ans. Il aura été témoin et à sa manière griot des heures et malheurs de sa ville. Il faudra encore une fois l'intervention des parabelges appuyés par l'aviation américaine pour mettre fin à cette rébellion à l'automne 1964. Quelques mois plus tard, à Kinshasa, Moïse Tshombe, entre-temps devenu Premier ministre, commence à faire de l'ombre au président Kasavubu, qui le démet de ses fonctions comme il l'avait fait pour Lumumba. Mobutu, lui, applique cette fois encore la même recette. Il intervient, prend le pouvoir et cette fois-ci, il prévient, ce ne sera pas pour 5 mois, mais pour 5 ans. Bon, on le sait, cela durera bien plus longtemps. Et, quelques années après l'avoir trahi, une fois arrivé au pouvoir, il se présente comme le digne héritier des idéaux de Lumumba. Franco et l'orchestre Ok Jazz lui prêteront main forte dans la chanson qui vient, Lumumba, héros national.
Bakanga Kinga Bandeko Bapeki sakinga bande kokombo ya Lumumba na lobate Mobutu andimi alobi na loba Banyoka la kinga bande ko Balinga kina lela Lumumba te Lumumba kufeli l'unité nationale Mobutu atiye héros national.
Gloire et honneur à cet illustre Congolais, à ce grand Africain, premier martyr de notre indépendance économique, Patrice Emery Lumumba. Parce qu'il avait compris que l'indépendance politique ne vaut rien du tout si elle ne repose pas sur une véritable indépendance économique.
Ah, ça oui, Lumumba aura bien droit à sa statue et à un gigantesque boulevard à Kinshasa, devenant un martyr utile qui servira, et sert d'ailleurs toujours encore, aux politiciens congolais. En 1965, Mobutu a 35 ans. Il est énergique et décide de redresser le pays qui a sombré après tous ces conflits. Et il y parvient. Faut dire que les cours du cuivre qui sont au plus haut lui en donnent les moyens. Et puis, il décide de débaptiser les villes de leurs noms coloniaux. Bientôt, ce seront les noms chrétiens qui seront bannis. Le Congo, bien sûr, devient le Zaïre, un état dont un seul parti a le monopole, celui de Mobutu. C'est le MPR, le Mouvement Populaire de la Révolution. Le pays va mieux, l'argent, la nourriture et la bière circulent à nouveau. Et Mobutu est au sommet de sa gloire. C'est dans ces années 70 qu'il inaugure la cité de la voix du Zaïr, l'immense complexe de la radio-télévision. Isidore Kabongo, Zizi pour les intimes, y était. Bien plus tard, en 2004, il était même devenu directeur des programmes de la Radio Nationale Congolaise et il me faisait visiter les locaux qui, il faut bien le dire, avaient entre-temps perdu de leur superbe.
Quand on a construit, on a vu très grand. C'est venu d'une idée politique qui était sérieuse. On venait de connaître beaucoup de sécessions politiques. Et en fait, le président Mobutu, à ce moment-là, et son équipe ont dit, pour gérer ce problème, il faut être un peu, comme dirait, des jacobins là chez vous. Il faut tout centraliser. Et même pour l'information, il faut d'abord que tout vienne de la capitale et aille là-bas. Nous avons inauguré ça en 78. Mais en fait, sur les 17 studios des radios, il n'en reste plus que 3 maintenant. Les autres, eh bien, ils sont inexploitables. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de frais de fonctionnement. Ça marchait au début parce que nous étions les seuls. C'était le temps du monopole de l'État. Donc à ce moment-là, pas de concurrence, rien du tout. Il n'y avait que les messages du parti qui passaient 24 heures sur 24 en français et dans les quatre langues nationales.
De la musique, bien sûr.
Ah, ça, au Congo, on ne peut rien faire sans musique. Je crois qu'il a réussi dans une chose, par exemple, la notion d'appartenir à une nation. Ça, oui.
La radio a participé à ça.
A participé à ça, vraiment a participé à ça. Dans le moindre village, il y a eu ça. Le message sur l'unité du pays est vraiment passé. J'ai dit toujours pour ça, j'ai le doigt à Mobutu de me sentir Zaïrois congolais appartenant à une nation réelle. Ça, oui, ça c'est vrai. Mais seulement, ce n'est pas tout. Il en a profité en tout cas pour tout à fait abrutir les mentalités. À la radio comme à la télévision, par exemple, nous avions mis ce qu'on appelait les slogans. Nous avions par exemple un slogan qui disait « Un seul chef, une seule nation, un seul peuple », pas comme ça. Puis, dans les chansons, nous avions tout ce qui voulait dire que c'est le chef qui a raison. Tout avec le chef pour le bien de tous. Sans le chef, on n'est rien du tout. Donc, tout ça, c'était des slogans. Et nous avions des slogans vides, par exemple, Objectif 80. C'est-à-dire, dans les années 70, on avait fait une sorte de plan directeur qui s'appelait Objectif 80. Donc, en l'année 80, il fallait qu'on arrive à tel résultat, je ne sais pas, les routes un peu partout, et tous les enfants à l'école, ce genre d'absurdité comme ça, quoi. Mais ça s'appelait les objectifs 80. Et à la radio comme à la télévision, c'était des slogans, ils étaient passés en boucle, tout devait passer tout autour. Donc, ce qui était terrible, c'est que plus on arrivait vers l'année 80, moins il était évident que nous pouvions atteindre ces objectifs. À ce moment-là, les hommes du parti imaginaient un autre slogan. Ce n'était plus bon de parler des objectifs 80 parce que vous rappelez des choses qui n'ont pas été faites, alors vous êtes un saboteur. Donc à ce moment-là, on inventait une autre série d'objets, des slogans. Bon, alors, à la télévision, ce n'était pas pire qu'à la radio, mais seulement, il y avait des images incroyables. Mobutu qui sortait du ciel, par exemple. Mobutu qui sortait du ciel comme Dieu le Père et tout ça, qui venait et descendait vers nous pour notre salut et tout ça. C'est nous qui avons inventé ça. On ne peut pas dire que c'est Mobutu qui a inventé ça. C'est nous. C'est nous les turiféraires. C'est en cela, nous avons aussi fait Mobutu. Ça, il faut dire que les médias ont fait Mobutu. Quand nous avons commencé à inventer les timoniers, les pharaons modernes, des histoires comme ça. On avait même inventé le mobutisme. Dites-moi, le mobutisme, c'est quoi ? C'est toutes ces histoires en isme-là. C'était pour imiter les autres. Contre la négritude, nous avions le mobutisme et nous avions l'authenticité, des histoires comme ça.
La politique de recours à l'authenticité. De quoi s'agit-il ? Tout simplement de ceci. Refuser désormais d'une manière catégorique d'être des copies certifiées conformes. C'est-à-dire, au nom de la révolution, nous ne pouvons plus accepter d'être dans ce continent des Français d'Afrique, des Belges d'Afrique, des Américains d'Afrique, des Italiens d'Afrique, mais des Africains authentiques.
Mobutu a compris que la culture, c'est quelque chose de très important. Il avait besoin de promouvoir sa politique et il avait besoin des griots.
Loko Masengo, artiste-chanteur.
D'où les musiciens, pour chanter les louanges, pour chanter les pensées du guide, comme on disait à l'époque. Par exemple... Djalé l'ombanzi la kaye, Mobutu mokonzi, djalé l'ombanzi, c'est Mobutu. Donc là, on chante donc Mobutu, c'est-à-dire c'est le chef suprême. Donc c'est lui le guide, c'est le pacificateur, c'est le rédempteur même, comme on disait. Donc c'était ça. Mais à l'époque, quand Mobutu est venu au pouvoir, quand ça a commencé, les artistes ne pensaient pas que ça allait terminer en catastrophe. Personne n'avait pensé que ça devait se terminer comme ça, parce qu'il a eu un discours révolutionnaire, la révolution culturelle, et tout le monde s'est mis au pas. Maintenant, on a compris maintenant, ça permettait au peuple de ne pas réfléchir, c'était la diversion. Parce qu'il était dit un jour qu'un peuple heureux est celui qui chante et qui danse, bien entendu. Mais quand il est affamé, c'est pas bon. C'est ce qui est arrivé, le peuple ne faisait que danser, chanter le louange du guide. Entre temps, il crevait de faim et puis ça donnait ce que ça donnait.
C'est terminé comment ?
Dans le chaos, dans le chaos.
Fin 1989, le mur de Berlin tombe, le Zaïre, lui, est exsangue. L'économie est en friche, les fonctionnaires sont de plus en plus rarement payés et les militaires se servent sur la bête en pillant par deux fois Kinshasa. Mobutu, fatigué, est contraint d'ouvrir une conférence nationale. C'est déjà le début de sa fin.
Il faut dire quand même que depuis la conférence nationale, Mobutu était un peu comme, si vous voulez... Bon, c'est un peu fort de dire ça, mais c'était quand même l'image, une sorte de tigre en papier.
La conférence nationale, c'était en 91, c'est ça ?
Voilà,
c'était une sorte d'ouverture un peu aux autres partis.
Voilà. Depuis lors, et ce qu'il a eu le marais, c'est qu'il a quitté la capitale pour aller à Badolit, sa ville natale. Ça, c'était la plus grosse erreur. Les stratèges autour de lui étaient sûrs que Mobutu n'étant pas à Kinshasa, tout allait se déglinguer ici. On allait s'entre-déchirer et on allait se retourner vers lui comme vers les sauveurs. Venez vite, vite remettre de l'ordre ici et tout ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Au contraire, les gens se sont ligués contre lui. Toutes les audaces étaient permises. Et le pire, c'est que quand il était à Badolit, il s'est coupé d'ici. C'est-à-dire que même les informations venant d'ici ne pouvaient pas être regardées. Même la télévision, là, autour de lui, les gens avaient peur de regarder la télévision avec les images d'ici. À ce moment-là, l'arrivée de Kabila était une affaire tout à fait normale. On avait quand même un peu peur. On se disait, mais qui arrive là-bas ? Vous savez qu'ici, on ne savait même pas qu'il y avait tellement de Rwandais avec lui. Hein. On croyait plutôt que c'était nos compatriotes du Kivu. Hein. C'est quand on a vu la marée des Rwandais qui était ici que les gens se sont rendus compte que, oh là, c'est pas ça, hein, la libération, c'est pas tout à fait ça. Et ça, mais quand ils sont entrés ici, mais tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi le départ de Mobutu, tout le monde a applaudi.
En 1997, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo fait son entrée à Kinshasa. La rébellion a traversé tout le pays depuis l'Est, soutenue par le Rwanda voisin qui a commencé par traverser la frontière pour chasser les Hutus réfugiés au Zaïre et parmi eux, les anciens génocidaires. Mais ils vont pousser jusqu'à la capitale avec, au devant de la scène, le plus vieux des maquisards congolais, Laurent Désiré Kabila. Nous sommes le 17 mai 1997 et ses troupes entrent dans la capitale. Ce jour-là, alors qu'on attend les rebelles, Sylvie Coma est dans les rues, observe et garde une oreille sur la radio nationale.
Il faut être calme.
mal, hein, parce qu'il faut, parce qu'il y a deux spots qui font les désordres. Hein.
Il est où le drapeau? Il est comment le drapeau de Kabila?
Blanche.
Blanc. Blanche. C'est pour ça que vous avez tous un foulard blanc autour de la tête.
Mais pour accueillir les rebelles, ça signifie qu'on leur tamé dans la mer. Kabila vient ici.
C'est notre libérateur. C'est notre libérateur. C'est notre Moïse.
Victoire, victoire, victoire.
La victoire, c'est l'arrivée de Kabila. Que Kabila arrive, qu'il vienne prendre les choses au sérieux. Plus Mobutu avec son régime.
Où vous étiez là quand la FDL est arrivée à Kinshasa, à la radio?
Oui, je suis resté à l'antenne du 17 à 11h jusqu'au 20.
17h05, heure de Kinshasa, au micro, Billet Vanga.
Donc c'est là le rôle important que moi j'avais joué à travers la radio nationale. Parce que ni t'étais ma présence au micro la nuit, ou toute la soirée d'ailleurs, jusqu'au matin, je n'avais pas fermé l'œil. Mais combien de gens... serait mort dans la panique, des trucs comme ça là. Il fallait un message, un discours apaisant, qui calme.
Les éléments armés de l'FDL ont investi la voie du Zaïre aux environs de 13h10. Ainsi donc, nous tenons à vous signaler que l'armée des libérations est bel et bien à Kinshasa. Eh bien, s'il y a des coins qui n'ont pas encore vu passer les éléments de l'FDL, eh bien, qu'il se rassure, chose faite sans doute dans quelques instants. Dans quelques instants, nous sommes tous dans l'attente de ces messages radiophoniques de l'AFDL. Ce n'est pas encore rentré dans la bouche. Alors, tout à l'heure, nous serons tous fixés sur la dénomination actuelle de notre station. Mais jusque-là, je vous signale tout simplement que vous écoutez Kinshasa tout court. Parce que Kinshasa, je crois que ça ne va pas changer. Ça sera toujours Kinshasa.
Sinon, j'étais dans la marque. Imaginez-vous, les rebelles qui sont déjà dans la capitale et que vous disiez, vous écoutez la voix du Zaïre. Et mais vous prenez carrément pour... c'est pas moi.
Un mobutiste persévérant.
Persévérant, vous voyez. Alors, je me suis dit, non. Mais quelle dénomination donner, hein? Quelle identité donner à cette station que les gens écoutent maintenant? Vous écoutez Radio Kinshasa, c'est tout ce que je peux vous dire. Les 17 ou 18, j'étais pratiquement seul à l'antenne. Et j'ai même failli être passé, comme on dit, au poteau, parce qu'on a eu un incident.
Il y a quelque chose qui s'est passé précisément?
Juste au moment où nous devions commencer à lire le communiqué, la console a lâché. Silence total, plus rien n'est passé sur antenne, et nous étions la seule radio à émettre sur Kinshasa. Toutes les stations périphériques, les radios privées, tout ça... avait fermé, tout le monde avait pris ça, la tangente. Alors, la radio de la RTNC s'était tue subitement. Le collègue qui vient, il dit, chef, radio est koufi, donc la radio a rendu l'âme. Je dis, non. Alors le commandant s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus rien. Alors je dis, sans doute qu'à Binza, à notre centre d'émission, il y a eu coupure de courant. Alors, les militaires de l'AFDEL n'avaient pas compris que un incident pouvait surgir au moment où ils étaient prêts à passer leur message, leur premier communiqué. Alors, ils ont mis ça sur le compte du sabotage. Ah, mais il fallait s'y attendre parce que moi, je vous avais prévenu depuis 16 heures qu'il fallait préparer et tout. J'ai dit, mais ça ne dépend pas de nous. Binza, c'est loin d'ici. C'est pas la porte à côté. Donc, s'il y a des problèmes là-bas, ce n'est pas à nous à y répondre. Alors, il sort avec toute sa bande de militaires, tout ça, ils partent. Et moi, je restais là. Je sculpte la console, je vois très bien, je contrôle toutes les entrées et tout et tout. Je m'aperçois qu'il y avait un bouton de départ qui n'était pas enclenché, tout simplement. Alors je remets ces boutons en place, donc j'appuie sur les boutons, tout en envoyant la musique sur la machine, et le signal était sorti sur les récepteurs. Je dis voilà, c'était que ça la panne. Monsieur le collet, cours vite, va vite les intercepter là qui reviennent ici. Tu leur dis que tout est arrangé.
Attends, doucement.
Libérateur!
On y va.
L'argent! On vient donc de se faire arrêter par un groupe de militaires. En fait, ce sont des rebelles. Il
n'y a pas un Zaïrois parmi eux, ce ne sont que des Rwandais. Ils ne parlent pas un mot de Lingala.
Aucun militaire zaïrois dans ces troupes rebelles.
Très jeunes, ils sont très très jeunes. Ce sont tous des adolescents.
L'argent, l'argent, l'argent. Libération, libération. Une fois de plus, le même refrain, le même leitmotiv. En ce samedi 17 mai 1997, peu importe qui sont les rebelles et quelle langue ils parlent, ce sont des libérateurs. En début de soirée, la radio nationale diffusa enfin le message de l'Alliance.
Les combattants de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo Zaïre viennent, une fois de plus et pour des bancs, montrer à la population congolaise en général et quinoise en particulier que le règne de la dictature ne peut prendre fin si le peuple ne prend pas en main sa destinée. C'est ainsi que ce samedi 17 mai 1997, le régime dictatorial de Mobutu, qui aura opprimé la population congolaise pendant plus de 30 ans, vient d'être totalement défait dans la ville de Kinshasa par les mêmes forces de l'Alliance.
La République démocratique du Congo est en fête et il a célébré aujourd'hui le premier anniversaire de la célébration de la libération du peuple congolais par l'Alliance des forces démocratiques de libération. Dans la population quinoise, c'est la liesse, l'accueil des Kadogo est chaleureux.
Et vous l'avez vécu comment, vous, ici, à la radio, l'arrivée des troupes dans la radio ?
Ah, ici, en fait, tout ce qui était comme chanson, avec des relents du mobutisme, tout ça, ça a été caché. Tous, on a caché tout ça. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé à chanter, à mettre comme musique toutes les chansons de l'époque de l'indépendance. Les tcha-tcha-tcha-tcha, tout ça. Et on a commencé à suivre des cours de civisme. Tous les directeurs, tous les sous-directeurs, tous les cas de cours de civisme, tous.
Cours de civisme, qu'est-ce que c'était ?
Voilà, c'était d'abord, qu'est-ce que c'est la bourgeoisie comprador ? Des histoires comme ça, loufoques.
Marxiste, mais oui. Un peu vieillotte, quoi.
Oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le peuple, les soldats du peuple, la différence entre l'ouvrier et les cadres, les technocrates, avec les prolétaires des notions, c'était tout à fait aberrant ces histoires-là. Mais bon, ils ont fait ça pendant 3 mois et puis ils se sont fatigués. Moi, personnellement, c'était très intéressant. Je me suis dit, mais est-ce que ça peut contribuer à changer nos mentalités ? Puis en même temps, on se disait, mais ce n'est pas possible. Nous, surtout ici, les gens de Kinshasa, moi je suis du sud, mais les gens de Kinshasa ici, ils ont vu le marxisme des Congolais en face ici. C'était du folklore. Et
alors, du Congo-Brazza ?
Oui, du Congo-Brazza, c'était du folklore. Alors ils se sont dit, mais comment est-ce que ce folklore peut prendre ici ? Donc, et surtout, ils nous disaient toujours, ces histoires-là de Marien Gwabi. Marien Gwabi, c'était le président d'en face qui avait été assassiné, là. Alors ils disaient, ces histoires de Marien Gwabi, comment ça peut tenir ici chez nous, ici ? Nous, comment est-ce que ça peut être ces histoires-là ? Mais en fait, il faut dire aussi que Kabila avait un schéma mental, je ne peux pas dire moyenâgeux, dépassé, si vous voulez. Tu vois. Ces histoires de la guerre froide et tout ça, ça ne pouvait pas prendre ici.
Il gardait son esprit du maquis, ça faisait des années qu'il était plus ou moins en train de fomenter des rébellions depuis l'Est.
Oui, parce qu'ici, on nous parlait toujours de Tché, on nous a parlé de la Colombie, on nous parlait de tout ce qui s'est passé là-bas, de Cuba, tout ça, Nicaragua, machin, c'était des exemples qu'on nous donnait, tout ça. Ça n'a pas tenu trois mois. Ils se sont fatigués eux-mêmes, ils se sont limogés entre eux et tout ça. C'était aussi la lutte un peu au pouvoir, quoi, et tout ça. Mais en fait, ce qui était bien, c'était que tout ce qui était technique, la production des émissions, ils n'y touchaient pas. Mais comme les Mobutu aussi, ils ne nous donnaient pas d'argent. Donc on s'est débrouillés.
À ce moment-là, vous étiez payé quand même.
Oui, oui, mais notre salaire de misère habituel. Mais enfin, on était payé. Mais seulement, les changements qu'on attendait, on ne les voyait pas. Tu vois.
C'est-à-dire au niveau de la liberté d'expression, mais aussi des moyens de faire des choses.
La liberté d'expression, surtout ça. La liberté d'expression, on voyait tout ça, mais ça ne venait pas. On ne pouvait plus parler de l'AFDEL comme on l'aurait voulu. Et puis, maintenant, les informations étaient tout à fait orientées. Donc, à ce moment-là, pour nous ici, ça a été la plus grosse déception, c'était ça. On commençait à voir à la télévision rien que la tête du papa là-bas et tout ça.
Kabila, à la place de Mobutu.
De Mobutu et tout ça. Il remettait un peu ses pieds dans les bottes de Mobutu. Hein. C'était lui tout seul qui parlait pendant des heures. Et ça devait passer en entièreté tout ça. Quand il s'en allait avec les journalistes turiféraires, les mêmes que du temps de Mobutu. Donc, à ce moment-là, vraiment, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et pour nous, c'était une grosse, grosse déception parce que, en plus de cela, même dans la gestion du quotidien, c'était pire que du temps de Mobutu. Ce n'étaient pas des amateurs comme tels, mais c'était des prédateurs pires que du temps de Mobutu. On n'avait pas été libérés, quoi. C'était pire qu'avant. C'était pire qu'avant.
En 2004, comme tous ses compatriotes, Zizi Kabongo n'était plus zaïrois. Il était redevenu congolais, mais cette fois-ci démocratique. Depuis l'assassinat en 2001 de Laurent Kabila, auquel son fils Joseph allait succéder, le pays était à nouveau découpé en plusieurs morceaux tenus par des mouvements rebelles. Dans l'Est, plus personne ne comptait les morts. Ils étaient trop nombreux. Pour faire la paix, toute relative, deux chefs rebelles devinrent même vice-présidents dans une formule de gouvernement inédite. L'ONU, arrivée avec l'indépendance, était encore là, et pour longtemps. À Matongé, autrefois fief de l'ambiance quinoise, Jean-René ne pouvait s'empêcher d'être gagné par la nostalgie. Et aussi par la morosité ambiante, malgré la bière du dimanche avec les copains, malgré l'énergie héroïque des habitants qui tentaient de garder la tête hors de l'eau, refusant d'être noyés dans l'histoire tumultueuse du Congo.
À l'époque où le Congo, où le Zaïre était un pays vraiment riche, où le Zaïre monnaie valait 2 dollars, à ce moment-là, il y avait la véritable vie. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de stabilité monétaire, etc., etc., c'est une façon de voir. Mais moi, je crois que peut-être c'est le manque de vie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se fait. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'industrie. C'est-à-dire que l'argent de l'extérieur commence maintenant à venir. Ce n'est même pas encore arrivé. On est resté trop longtemps sans argent, sans travail, sans vie. Alors les gens ont l'impression que tout est stabilisé, mais c'est négativement stabilisé. Alors c'est la même chose aussi, même pour la vie à Matongé. À l'époque où le vrai Matongé existait, vous trouviez sur des tables des casiers de bière, vous trouviez du poulet, vous trouviez des victoires, vous trouviez la véritable vie. Maintenant, en fait, on fait semblant de vivre. Les Congolais font semblant de vivre, font semblant de faire de l'ambiance, parce qu'ils ne veulent pas mourir, ils refusent de mourir. Mais en fait, la vie est au ralenti. La vie est au ralenti. On fait semblant.
2010, président Joseph Kabila, discours du cinquantenaire de l'indépendance.
Il est indéniable. Nous avons connu des victoires remarquables et c'est notamment le cas de la préservation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, du rétablissement de la paix à l'intérieur du pays et avec nos voisins, de la réconciliation nationale, de la transition consensuelle qui a permis des élections libres, transparentes et démocratiques.
Toleka.
Toleka, yaka.
Toleka, c'est ça ici, chez
Toleka,
vous.
Toleka, c'est le moyen de transport, le vélo qui transporte les gens.
Donc, c'est le taxi de chez vous, quoi.
Oui, c'est le taxi-vélo. Et les gens se mettent derrière, là, on met les bagages. Donc, c'est bien arrangé avec un petit coussin. C'est le moyen de transport le plus facile à Kisangani.
Ça a toujours été comme ça?
Non, avant il y avait de voitures, mais avec la guerre et tout ça, donc il n'y a pas de route, ça, on s'adapte. Hein. Le vélo peut aller te déposer juste devant ta porte, c'est facile.
Aïe aïe olé la yé yé, maman gaïna wé o. Sokinga na longola ki bototo, nanzota mwana likolo ya bobota. Batena linga kiye mingi ya imoko na kati ya motema mwana meseni na kati ya ndako ayeko buka mibeko na pesa kiye koso sako ya etali yeo article 15 engo debriyevo.
Et oui, à la fin des années 2000, les habitants de Kisangani se déplaçaient en taxi-vélo. Alors c'est vrai, c'est écologique, mais avait-il vraiment le choix ? Vous l'avez entendu, c'est à Joseph Kabila, élu en 2006 lors d'élections heurtées, que revint finalement le discours bilan du cinquantenaire de l'indépendance. Oh, certes, dans le discours, il reconnaissait des ratés, mais enfin, en substance, il se félicitait que le Congo existe toujours. C'était déjà ça. Pourtant, la sécurité n'était pas revenue sur tout le territoire, loin de là. Et la vie, dont parlait Jean-René de Matongué, n'avait pas vraiment repris non plus. Le fils Kabila sera réélu en 2011 et après avoir joué les prolongations, eh bien, il cédera en 2019 le fauteuil présidentiel à Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Avec le recul, on se dit que l'unité des politiciens que chantait l'indépendance tchatcha n'avait peut-être duré que le temps d'une chanson finalement. Loin des querelles politiques et leurs conséquences désastreuses, les Congolais, eux, restent unis dans le système D. Et ils appliquent le seul article sûr de la Constitution, celui qui n'a pas changé, et qu'on appelle l'article 15. Débrouillez-vous. À ça, pour celui-là, c'est sûr, ils n'ont pas voté. Mais ils le vivent tous les jours, en attendant son abolition. Tiens, d'ailleurs, je me souviens de ce que disait Olivier Maloba, homme de théâtre qui m'avait donné un jour à Kisangani la clé de cet article qui fait aujourd'hui encore force de loi.
Tout le monde vit dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Le Congolais rêve que ce pays immensement riche, vaste, pourrait avoir un lendemain meilleur. Et cet espoir fait vivre. Ça ne décourage pas la personne. Il a la force de vivre. Le découragement n'est pas congolais. Le découragement n'est pas congolais. Demain, je vais manger. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça ira. Et avec cet espoir, il arrive à faire quelque chose et à trouver quelque chose. Donc l'espoir du Congolais lui permet de nouer les deux bouts du mois sans emploi. Si demain ça ne marche pas, après demain ça ira. Si ça ne marche pas après demain, donc je suis très sûr après une semaine ça ira. Mais il y a la providence qui fait que ça se réalise, ça fait avancer les choses. Nous tenons bon.
Indépendance, les jours d'après, c'est une série de Vladimir Cagnolari et Laure Alari. Merci et bravo à eux pour ce voyage dans le temps et dans le poste. Merci à Sylvie Coma, formidable reporter à l'écoute de son époque et des autres. Merci aussi à la Sonothèque de RFI et celle de la RTNC. Et surtout, merci à tous les intervenants de ce premier épisode congolais. Céline Develay-Mazurel, Laure Alari, Vladimir Cagnolari, on vous salue, chers auditeurs, avec une pensée spéciale pour tous les Congolais qui nous écoutent et qui tiennent bon. Bonne semaine à tous à l'écoute de RFI. Le coq chante.